Puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît. La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
13h11, avant d'aller faire un tour dans la circulation, Pascal, juste rappeler aux auditeurs, si vous voyez quoi que ce soit sur la route 418-971-1021, 418-971-1021 actuellement, comment ça se passe sur le réseau?
Oui, c'était difficile parce qu'il y a eu, accident là, du côté du pont Pierre-Laporte en direction sud. Dans le milieu du tablier, il y en a eu un débarquement de meubles non désirés, ce qui a fait en sorte que ça a obstrué la voie droite, est bloqué des débris. Ça, c'est terminé pour cet incident-là. Cependant, vu que ça a ralentit la circulation pendant un bon bout, faut attendre un petit peu avant que ça reprenne de mon train.
À la gang, on se fait confiance, mais quand tu vois quelqu'un qui est avec sa remorque, puis tu vois qu'il aurait chargé sa remorque tout croche, là, t'as-tu hâte de l'éclairer, cette remorque-là, puis de passer à côté, puis de dire,
c'est la première chose que je fais.
Si ça débarque, je ne serai plus là.
Puis j'ai vu des chargements de gouttières en ce moment, les gens font refaire leur gouttière avant l'hiver, là. Mais ça, c'est en acier peut-être. C'est super léger, là, une gouttière. Ouais. Sur l'autoroute, semi-attachée avec un cric, là.
Ça part au vent, ça.
Hein? Puis ça plie. Fait que moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais me faire déchausser. Là.
Le stress, c'est les bio de bois, tu sais, les arbres. Là. Les arbres qui sont tous empilés les uns sur les autres. Ouais, dans Destination Ultime, on le voit d'ailleurs. Mais, tu sais, heureusement, c'est des camionneurs qui ont des formations nécessaires pour attacher ça pour que ça ait du bon sens.
C'est un peu moins pire que Mario avec sa caravane puis le matelas sur le top. T'sais.
Ouais, c'est ça. C'est comme quand il y a une remorque là, qui a sa plateforme descendue, là, ça fait comme un jump. Là. J'y pense à chaque fois. C'est-tu là mon moment où je l'essaye?
Ben voyons. Jusqu'à temps que tu arrives.
Tu n'y as jamais pensé?
Que la plateforme est toujours un peu surélevée, que tes roues embarquent pas dessus.
Non, mais les roues, c'est sûr qu'ils vont embarquer dessus. Là. Mais tu sais, dans Fast and Furious, ça va bien.
Oui. Mmh. Oui.
Je suis tout seul à penser à ça.
Je pense qu'on y pense tous.
Quand il y a route barrée.
Mais celui qui se demande, c'est quand son moment? Oui, tu dois être dans seul.
Quand il y a, c'est écrit route barrée, tu t'assieds-tu?
Oui, souvent.
Moi, je m'assieds tout le temps.
Ouais, je suis vraiment de la merde.
On est vraiment mal fait.
Quand il faut que je tourne de base, je suis comme, ah, je suis un peu gêné.
Ah ouais, exact. Hey, peut-être un peu de sport. Victoire du Canadien hier, contre toute attente, face aux Oilers d'Edmonton. Hier, ça se passait au Centre Bell. Blanchichage de 31 pour Samuel Montembeau. Evans a marqué. Il y a Gallagher aussi qui a été un des marqueurs. Puis tu as Goulet aussi. Prochain match, c'est samedi face à Vegas. Ça va se passer à Montréal. Sinon, Alex Ovechkin, quel joueur de hockey qui a marqué 2 buts hier soir pour continue de se rapprocher du record de Wayne Gretzky, mais a dû quitter le match malheureusement en raison d'une blessure. Et on attend encore à cette heure-ci, 13h13, une mise à jour de sa blessure. Et il y avait un match hier dans la NFL, les Texans de Houston qui affrontaient les Cowboys de Dallas. Victoire des Texans 34-10. Il est de Libre Média, son nom c'est Jérôme Blanchet-Gravel. Il est actuellement en France. Comment allez-vous, M. Gravel?
Bonjour à vous deux, ça va très bien. Vous ne parlerez pas mon accent français, là.
Non, c'est ça. Est-ce que tu reviens avec un accent français quand tu reviens de France, juste pour faire chier les Québécois? Ou...
Non, ça fait longtemps que je viens en France, d'ailleurs. Puis je suis allé à la radio, puis non, je conserve mon accent québécois. Puis honnêtement, ils nous comprennent. Hein. Il s'agit simplement d'articuler un peu plus, peut-être. Là, mais
Ils nous comprennent quand ils souhaitent. T'sais, toi, tu as un petit peu plus d'accent français quand tu nous parles au quotidien. Ça doit aider. Là. Mais il y a des mots sur lesquels ils veulent pas se forcer. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est quand ils commencent à nous parler en anglais automatiquement.
Ah oui, oui, c'est effectivement. Je faisais la réflexion à ma femme. Ça, c'est incroyable. Je pense que je suis quelqu'un qui parle français dans la vie. Là. Donc ça, c'est insultant, c'est incroyable. Là.
Comme s'il allait plus nous comprendre.
Il y a l'ignorance aussi chez nos cousins. Là. Donc ça, c'est pas leur meilleur réflexe. Donc si je peux parler à la radio en France, je pense que je peux me faire comprendre dans une épicerie là, quand même.
Ouais,
donc
je suis d'accord avec toi.
Donc on va venir de switcher à l'anglais.
Jérôme, j'ai quelque chose à adresser.
Oui.
C'est sérieux, c'est sincère. Je suis extrêmement fâché contre toi.
Oh, j'aime ça.
Bon, qu'est-ce que j'ai fait?
Ça brosse.
Oui. Puis je présume que c'était juste pour attirer l'attention et faire jaser, mais tu as publié sur ta page Facebook un genre de ode et une frustration face au woke qui prendrait une ascension dans la société par rapport à un homme danseur qui était genre déguisé en ange de Noël. Et moi, la féerie de Noël, tu ne touches pas à ça. Peu importe si danseur te plaît ou pas, j'ai trouvé ça super beau. Puis même si c'est différent, moi, j'applaudis parce que ça garde nos cœurs d'enfants et ce n'était que douceur pour les yeux, même si ça peut ne pas plaire à certains. J'étais fâchée contre toi.
Tu te fais brasser, Gravel, hein? Tu te fais brasser, ici. T'es pas en territoire conquis, je peux te le dire.
Ouais, ben écoutez.
Avoue que pas... tu voulais faire jaser.
Ah non, mais t'as-tu vu le gars, là? Je veux dire, c'est n'importe
quoi.
Hein, il danse! Tu sais, on va-tu au grand ballet à Casse-Noisette en disant ça n'a pas de bon sens? Voyons!
D'après moi, lui.
Non, je sais, j'ai une cousine chanteuse aussi.
Bon!
Qui habite Las Vegas, qui effectivement fait la même remarque que toi, Pascal.
Yes!
Donc, j'ai dû réfléchir un petit peu, là.
C'est bon, ça, Jérôme!
Donc, non, mais je me suis presque remis en question.
Presque! Mais je vais te faire en sorte que tu te remettes en question, tu vas voir. Hein,
mais il fallait quand même être là, c'est-à-dire, c'est d'abord, la Samaritaine, c'est un des centres commerciaux les plus luxueux à Paris.
À Paris,
là,
ouais.
Idéalement, pas emmener votre femme là-bas parce que, bon, c'est un peu dangereux, là. Et,
on va se payer nous-mêmes, nos belles affaires.
Et là, tout d'un coup, apparaît effectivement ce personnage féerique. Mais honnêtement, il y a beaucoup d'enfants. Puis moi, ma femme et moi, on reste sur la même idée. On aurait préféré le Père Noël et je pense que ça aurait plus d'avantage aux enfants.
Mais
simplement
il est trop
le Père
tôt.
Noël, des fois, c'est
trop
gros,
tôt
c'est
pour le Père Noël.
Assez, mais...
Il arrive en décembre, là, Jérôme. Là. Là,
ouais,
ce n'était qu'un ange écoute, féerique de Noël.
Mais je suis ouvert. C'est-à-dire que je comprends votre perspective selon laquelle c'est de l'art. Moi, j'ai trouvé bon. Peut-être un peu... bon, il y a une référence un peu à la féminisation des corps masculins.
Oh.
Là, donc, ça faisait un peu wow.
Oh,
mais...
Jérôme, j'ai une solution pour toi dans ce temps-là. Prends une coupe de vin de plus. T'es à Paris.
T'es pas rendu là. J'allais voir mon ami Alexis Poulin. L'apéro était après. D'où...
Mais c'est ça, mon truc. Quand tu seras insurgé face à la féerie de Noël puis d'un danseur, comme malheureusement ou heureusement, ça dépend de vos opinions, mais il est clairement formé par une école de haut prestige de la danse.
Oui, apparemment, il est bon, le danseur.
Ben
moi, j'ai pas eu cet œil-là. Là,
ben, tourne-toi, pogne-toi vers de vin. Je te dis, ça va être ça, mon conseil.
Mais Jérôme, si ça peut te rassurer, moi, je suis ton bord, effectivement. Abat le wokisme. Abat le wokisme.
C'est pas du wokisme, les gars.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en France?
Je prends des battes. Moi, je vous le dis, je prends des battes. Mais je vous dis, vous manquez un peu de contexte.
Ah, non.
Il y avait quand même des touristes, notamment japonais, qui se demandaient vraiment qu'est-ce qui se passait au centre commercial.
Ben, voyons, c'est Noël.
Bon,
qu'est-ce qui se passe?
Il y a tout un aspect choc culturel
nous
aussi.
Nous autres, on mange pas de vieux poissons bises, puis on se trouve pas de raison pour les trouver bizarres.
Non, mais tu sais, tout comme les Japonais, moi aussi, envoyer un homme en collant, je me sauve.
Hey,
Jérôme Blanchet-Gravel, t'es en Europe, tu fais quoi là présentement pour Libre Média?
Ben là, je termine une tournée parisienne. Je viens chaque année à Paris depuis maintenant 10 ans. Même des fois, je viens deux fois. Je suis allé à plusieurs radios. J'ai rencontré des amis, forcément, des médias amis aussi. C'est bien de faire alliance aussi là, pour la liberté d'expression, etc. Donc, j'ai toujours été francophile, donc j'aime la France. Là, ça fait longtemps, c'est pas une grande nouvelle.
Comment t'es reçu donc, quand tu vas là? Est-ce que déjà c'est un esprit de débat comme ce qu'on vient d'instaurer avec toi ici en onde, Jérôme?
Honnêtement, oui. Ah, les Français ont le sens du débat, c'est clair. Puis ils parlent beaucoup aussi. Donc c'est des médias où la parole, disons, est mise à l'avant-plan. Ça discute, ça débat. Donc les Français ont très clairement le sens du débat. Ça nous manque au Québec, donc c'est bien de venir chercher ça ici. Donc, ce matin, tu vois, vous voyez, j'étais à Tocsin, c'est une radio indépendante qui cartonne sur YouTube et d'autres plateformes. Donc, tu sais, on crée des liens, on noue des sortes d'alliances, puis j'ai rencontré toutes sortes de... Puis j'ai fait des entrevues pour Libre Média, trois grandes entrevues que j'ai tournées, notamment Christian Rioux, du correspondant du Devoir à Paris. Donc, on va diffuser ça, je pense, la semaine prochaine. Donc, trois grandes entrevues là, qui ont été tournées ici même à Paris. Ça a été très fort agréable. Et au-delà de tout ça, je vous dirais des apéros très costauds. Là.
Jérôme, je voulais discuter avec toi d'un sujet qu'on jase au Québec depuis déjà quelques heures. La décision de Joe Biden d'autoriser des frappes sur le territoire russe avec des missiles.
Ouais.
C'est une décision assez particulière. On sait que les compagnies d'armement aux États-Unis mettent énormément de pression sur l'administration en place parce que pour eux, l'objectif quand tu es une compagnie d'armement, c'est de faire de l'argent. Puis s'il n'y a pas de guerre, ben je veux dire, les armées s'achèteront pas d'équipement. Là, Biden qui a autorisé ça, est-ce qu'on veut créer une guerre pour l'arrivée de Donald Trump?
Honnêtement, c'est peut-être. Écoute, je pense que oui, les démocrates semblent, en tout cas, ils semblent chercher effectivement à déclencher une troisième guerre mondiale. Il y a quelque chose de complètement fou là-dedans. Moi, j'y croyais pas, en fait, quasiment. Là, Et ce qu'on remarque d'entrée de jeu aussi, c'est le caractère antidémocratique. C'est-à-dire que, bon, on sait Donald Trump veut mettre fin à ce conflit-là, bon, qui va prendre un aspect gelé, là, c'est-à-dire que ça va ressembler un peu à un scénario à la coréenne, sans doute. Ça va être, bon, il va, la Russie, sans doute, va s'approprier des territoires à l'est, là, complètement. Puis, bon, c'est ça va être gelé. Mais c'est ça, Donald Trump, lui, on le sait, veut mettre fin au conflit et Joe Biden n'en prend absolument pas acte. Donc, le Parti démocrate américain n'en a que faire, finalement, du choix démocratique de millions d'Américains. C'est très particulier là, parce que le message a été envoyé clairement. Les Américains ne sont pas intéressés à financer des guerres lointaines, en tout cas qui leur apparaissent lointaines, déconnectées de leur réalité à eux. Les Américains ont l'impression qu'ils s'appauvrissent. Et donc, ils ont l'impression que finalement, ça serait peut-être mieux de garder de l'argent dans leur poche au lieu d'en envoyer en Ukraine, qui est devenue une sorte de nouveau Vietnam. Donc, déjà, le caractère antidémocratique de la décision est incroyable. Honnêtement, c'est fou raide, là. C'est vraiment un affront au plébiscite du 5 novembre dernier, l'élection. L'autre chose, ben, c'est que c'est irresponsable. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable. C'est une provocation incroyable. Vladimir Poutine, on le sait, est un gars assez sérieux. Là, c'est quelqu'un qui a déjà menacé l'Occident d'employer l'arme nucléaire. Honnêtement, c'est une possibilité réelle. Ça, c'est pas impossible que Poutine fasse une sorte de démonstration nucléaire en Ukraine même, peut-être sur un territoire qui n'est pas très peuplé, mais une démonstration de force quand même. Donc, honnêtement, on est vraiment devant. On n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale qu'actuellement. C'est incroyable.
Parce que là, les missiles, il y a des missiles américains là-dedans. Puis je me souviens qu'en septembre dernier, Poutine avait, il avait pas mal prévenu là, que s'il y avait un feu vert occidental pour l'utilisation de ces armes-là, ben ça signifierait une implication directe d'un des pays de l'OTAN. Et ça le foutrait en rogne. Fait qu'effectivement, il pourrait y avoir, comme tu dis, une frappe ciblée pour montrer à quel point Poutine est en désaccord totalement avec ce que l'administration Biden est en train de faire. Est-ce que Poutine pourrait prendre pour acquis ce qu'on est en train de se dire là, toi et moi, c'est-à-dire que les démocrates veulent mettre les républicains dans la merde avant de partir.
Oui, je pense que c'est très clair. C'est une sorte de. C'est très rancunier d'ailleurs. Forcément, on veut un peu piéger Donald Trump, c'est clair, là. Donc, c'est un piège. On tend un piège à Trump et si jamais Poutine réagissait de cette manière-là, reste que Donald Trump est bon et contre la guerre, mais c'est un Américain. Donc, c'est reste que le Parti républicain serait tenu lui aussi de réagir à une attaque massive de la Russie, ou du moins, donc, serait tenu de réagir et d'employer des moyens aussi proportionnés. Mais est-ce que ça va se produire? Et comme tu dis, est-ce que Poutine est conscient que Poutine est conscient de cette manœuvre-là, parce que c'est une manœuvre. Cela dit, il y aurait quand même déjà eu des missiles qui auraient atteint le territoire russe. C'est vraiment pas de la tarte, là, sérieux. C'est absolument incroyable. Et l'Occident n'est pas du tout conscient de son isolement, hein. On pense qu'on domine encore le système international. C'est plus du tout le cas. On l'a vu récemment, là, la fameuse conférence des BRICS, justement en Russie, où il y a le président russe, le président turc, le président indien. Qui d'autre, le président iranien. Donc, l'Occident est convaincu qu'il domine, c'est ça, le système international, mais c'est plus du tout le cas. Donc, le jour où la Chine va envoyer un message plus clair et va s'y mettre de manière plus décomplexée, c'est-à-dire la Chine est avec la Russie, là, soyons clairs, la Chine appuie la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, là, à demi-mot. Là. Donc, c'est pas banal. Mais je pense que ça ne changera pas l'issue de la guerre malgré tout. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas d'escalade et qu'on n'ira pas vers cette troisième guerre mondiale-là, mais on va l'avoir frôlée, ça c'est certain.
Écoute, j'écoutais Stéphane Bureau dans les dernières heures qui disait aujourd'hui, on veut déployer tout ce qui reste d'aide à l'Ukraine pour donner les moyens à l'Ukraine de résister, mais aussi on veut peut-être négocier ça. C'est Stéphane Bureau qui a mentionné ça hier. Il dit, c'est probablement aussi pour ça que Biden est pressé de tout faire pour envoyer, pendant qu'il a encore le temps, un maximum d'aide militaire à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier prochain. Mais tu sais, si c'est pour déclencher, puis je pense pas que ça arrive, mais si c'est pour déclencher une troisième guerre mondiale, ça n'a comme pas de bon sens, cette stratégie-là. Là. C'est une vengeance ignoble de la part des démocrates sur les républicains. Là, parce que là, tu vas refiler le problème que tu as créé à l'administration qui s'en vient.
Oui, oui, non, non. Effectivement, ignoble, irresponsable, antidémocratique, tous ces termes-là sont bons. C'est incroyable qu'en fait, que la gauche soit encore derrière ce genre de pratique-là. Puis, on accuse souvent les républicains d'être derrière le lobby des armes. Bon, les armes à feu, là, les armes à feu, les armes de poing, tout ça, mais le Parti démocrate est, lui, très certainement derrière le lobby de l'armement. Donc, tu sais, c'est pas vraiment mieux. Là, c'est-à-dire,
ben, les républicains, ils vont aller là aussi. C'est quoi les avantages, les désavantages pour chacun des partis dans cette gestion de conflit-là en ce moment, Jérôme? Avantages, désavantages, autant pour la gestion démocrate que républicaine?
Ouais, bonne question. Ben écoute, c'est le complexe militaro-industriel forcément qui pousse. Quels sont les avantages des États-Unis d'Amérique comme pays à pousser cette guerre-là? Ben c'est évidemment le marché européen, là. C'est-à-dire que l'Europe est encore plus soumise en quelque sorte aux États-Unis depuis cette guerre-là, notamment sur le plan énergétique. Donc on le voit avec Nord Stream, là, l'Allemagne par exemple, qui est plus dépendante finalement des États-Unis depuis le sabotage de Nord Stream qui aurait été orchestré par les États-Unis. Mais cette stratégie-là est un peu pathétique, c'est-à-dire c'est comme dans une partie de hockey quand tu enlèves ton gardien de but, puis là, tu joues pour le tout parce que tu sais qu'il te reste 3 minutes. Le Parti démocrate est en train de faire ça, mais tu ne comprends pas que si tu enlèves ton gardien de but, tu peux te faire scorer 23 buts. Là. C'est incroyable, c'est immature aussi politiquement. Mais l'intérêt Parti républicain, ça serait quoi? Ça serait. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, outre sur le plan énergétique, l'intérêt de l'Occident, c'est un entêtement qui démontre finalement qu'on n'est pas prêt en Occident à accepter qu'il y ait des puissances émergentes et on ne pourra pas toujours dominer le système international comme on l'entend. Et c'est perçu, je pense, par la Chine comme une sorte de refus de voir la réalité actuelle, c'est-à-dire un monde qui est multipolaire, qui est plus unipolaire. L'hégémonie américaine, c'est plus aussi vrai qu'avant. Donc, non, je pense que l'Occident en général, dans son ensemble, n'a pas intérêt à s'entêter dans un conflit qui nous concerne, mais qui ne nous concerne pas tant que ça, dans le sens où l'Ukraine reste un pays russophone aussi, en grande partie.
Mais tu n'as pas l'impression que c'est plutôt un genre de stop? Ça doit être extrêmement difficile à manœuvrer, honnêtement, là, de jouer aux échecs dans ce contexte-là. Mais peut-être pour certains, de ne pas laisser la Russie l'idée comme ils souhaitent ce conflit-là, c'est de faire en sorte de mettre un pied à terre pour pas que ça prenne de l'expansion par la suite face à l'Occident, justement, sachant que Vladimir Poutine n'en a rien à battre de l'Occident, mis à part ce qu'il pourrait en récolter pour sa propre vertu.
Oui, mais il ne faut pas surestimer le pouvoir de la Russie. C'est-à-dire c'est un pays bon, qui fait peur, mais c'est un pays, d'abord de 120 millions de personnes.
On a vu que son militaire n'était pas au point non plus dans cette guerre-là. Je veux dire, des drones ukrainiens qui ont réussi à se rendre dans la capitale, c'est une chose. Mais ça reste que c'est un homme qui va aller où il souhaite aller de la manière dont il peut faire sans s'affaiblir ou sans affaiblir l'image qu'il porte. Mais on doit quand même se montrer avec une colonne vertébrale dans tout ça. C'est peut-être pour ça.
Oui, effectivement, sauf que des dictateurs, il n'en manque pas non plus dans le monde. On peut s'attaquer à beaucoup de dictateurs. L'Occident traite avec d'autres dirigeants autoritaires dans le monde, l'Arabie saoudite, etc. Et le monde est rempli malheureusement de dictateurs, donc pourquoi plus la Russie que d'autres? Bon, la Russie, oui, effectivement, est nostalgique de l'Union soviétique.
Et surtout très présente là, dans le contexte géopolitique actuel. Tu sais.
Mais on parle de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire que, c'est un point de vue controversé, mais il faut bien comprendre que la guerre en Ukraine, c'est un peu une guerre de sécession, en fait. Pour moi, c'est un conflit intra-civilisationnel. Il faut quand même bien comprendre qu'on parle russe à Kiev, là. Oui, les Ukrainiens ont désir de s'affranchir du joug entre guillemets russe. Ils ont le droit effectivement de vouloir rejoindre l'Occident, mais l'Ukraine est quand même appartient en quelque sorte au monde russe, le monde orthodoxe. Donc c'est un peu c'est la même religion, c'est une culture qui est très proche. Donc c'est une guerre de sécession. C'est vécu chez les Russes aussi comme une sorte de guerre civile. C'est-à-dire les Russes ont pris le risque aussi de d'avoir des incursions ukrainiennes chez eux. Imaginez l'humiliation quand même. Les Ukrainiens se sont rendus en territoire russe, là. Ils ont été repoussés rapidement, mais quand même, c'est assez incroyable.
Un peu plus complexe, puis je sais que là, tu le résumes pour le bien de la chronique et tout, un peu plus complexe que ça, quand même, il y a eu énormément de drames humains dans tout ça. Il y a eu de la pollution des eaux. Il y a eu, en fait, une guerre d'égo d'abord et avant tout. Tu sais, le territoire qui est la base de tout ça est quand même beaucoup moins important que l'ampleur de cette guerre-là. Puis ce qu'on peut voir par la suite dans ce qui pourrait être créé, tu sais, une victoire à la Russie dans ce cas-ci, en enlevant les gains, là je vous parle pas de territoire, mais les gains humains que l'Ukraine pourrait avoir là-dedans pour minimalement être respectée puis pas avoir tout perdu, même en termes d'économie, va donner une idée de ce qui pourrait se produire dans le monde, pas juste avec la Russie, mais par rapport à ces puissances-là qui ont des rencontres ensemble, qui créent une nouvelle alliance à travers le monde, qui vont vouloir combattre les alliances déjà existantes. Je comprends que c'est un plat de fruits, mais t'as un ananas puis une poire, elles sont différentes. Ces fruits-là sont différents, mais ça fait partie du même plat, t'sais.
Mais c'est sûr, c'est une guerre. Hein? Moi, je ne défends pas la guerre en tant que telle. C'est pas plus beau que Gaza, c'est pas plus beau qu'aucune guerre. Puis moi, il y a pas de, pour moi, ce ne sera pas une victoire éclatante non plus de la Russie. Là. On parle juste des petits territoires frontaliers à l'est hein, qui vont être annexés à la Russie. Donc, c'est pas non plus. Poutine, lui, va effectivement présenter ça comme une victoire incroyable, un triomphe. Mais
côté économie, ça a énormément fait souffrir l'Europe. Si on s'en va plus loin, tu sais.
C'est néfaste.
Parce que le territoire ne peut pas juste s'en tenir à ça. Là. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Là.
Non, c'est pas très beau ce qu'on a vu, puis c'est fratricide, ça concerne des gens qui, comme je vous dis, là, les Ukrainiens puis les Russes, c'est un peu comme les Catalans puis les Espagnols, là, c'est des peuples très très proches, donc enfin, c'est désespéré en fait de la part de la Russie d'avoir fait ça, c'est vraiment un geste désespéré qui traduit une sorte de désespoir historique. Et non, moi, je le déplore forcément. C'est vraiment un conflit qui est déplorable. On aurait aimé que la voie diplomatique nous permette d'avoir une issue.
Il y a Louis Gauthier, chroniqueur international aussi, qui écrit, puis il écoute la chronique, trouve ça super intéressant. Puis il dit, tu sais, faut pas oublier que l'envoi d'armes, c'était la dernière étape de la fourniture militaire prévue depuis juillet. Là. Ça faisait déjà partie du package, selon ce que lui nous avance.
Bon, effectivement. D'ailleurs, je salue Louis Gauthier, dont j'apprécie les analyses. Mais c'est ça, c'est un conflit qui est fratricide, je le répète, qui n'est pas beau. Effectivement, il y a eu des enfants, tout le monde a payé le prix, il y a dû avoir des viols. C'est vraiment pas beau. À Libre-Média, on a couvert ça aussi. Là, on a fait tout un dossier sur la torture de part et d'autre. Donc, les deux camps se soumettent à des actes de torture épouvantables. Mais c'est pour ça qu'on espère la fin de la guerre. Moi, je prône quand même la diplomatie, là, c'est-à-dire s'entêter dans ce conflit-là. On va vers un scénario à la coréenne de toute façon. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'on ne domine plus, quand même, c'est ça, je le répète, le système international.
Mais Jérôme, ils n'auront pas le choix de céder le territoire. Tu sais, je regardais, je pense que
c'est juste l'Est.
C'est dans l'article du Devoir qu'on rapportait le nombre de soldats ukrainiens qui étaient décédés. C'est 80 000 soldats ukrainiens. Puis ce serait, selon ce que je lis, là, 200 000 soldats russes morts. Je veux dire, Poutine n'arrêtera pas la guerre du jour au lendemain sans rien gagner. C'est clair qu'il va vouloir avoir du territoire. Puis quand Trump va arriver, il va y avoir des négociations.
Mais il y en a aussi du côté de l'Ukraine. Puis tu sais, c'est qui a parti cette guerre-là? Moi, je trouve ça triste pour les peuples.
Ouais. 80 000 soldats ukrainiens morts contre 200 000 soldats russes morts.
Ça parle du militaire de la Russie qui se disait si hop. C'est eux qui ont envahi,
La Russie a payé un prix très élevé en jeunes hommes. La Russie s'emploie forcément à camoufler aussi ces pertes-là, c'est-à-dire que les familles sont compensées économiquement. Genre, c'est pas beau, là. C'est des choses
qu'on ne peut pas parler de ça
en Occident. Mais par exemple, les familles qui perdent les parents qui perdent un fils vont être compensés avec de l'argent. Ouais. Ça va les... Mais tu sais, on parle de la Russie aussi et de l'Ukraine. Tu sais, parce que nous, on a une vision très, très nord-américaine ou européenne de l'Ukraine et de la Russie. Mais la vérité, c'est que s'il y a des routes de terre, il y a des territoires à l'est de l'Ukraine où les habitants ont choisi de rejoindre la Russie juste pour avoir une connexion Internet. Là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est parce que nous, on applique aussi des concepts comme si, bon, c'est un peu la France qui envahit la Pologne, mais c'est pas ça. L'Ukraine est le pays, un des pays les plus corrompus dans le monde. C'est un pays plus corrompu que le Mexique. Là, t'sais, donc, il ne faut pas oublier que c'est pas comme... évidemment, ça fait partie de l'Occident, mais c'est des États quand même très, très pauvres avec des mentalités qui pourraient nous paraître un peu arriérées, entre guillemets, là, d'un point de vue occidental.
Zelensky, vas-tu sortir de là plus riche que quand il est rentré?
Ah, ben lui, c'est sûr, par exemple. Là, je sais pas, lui, il va aller... où il va aller rester après cette guerre-là.
Il retournera pas au cinéma, là. Il n'aura pas besoin.
Écoute, est-ce qu'il va se négocier un lopin de terre aux États-Unis? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il va pouvoir rester en Ukraine. Je pense que ça serait risqué pour lui. Là. Lui aussi, c'est un personnage, on peut en parler longtemps. Là, puis qui est un russophone aussi au départ. Encore là, vous voyez à quel point c'est un monde homme quand même unifié quand même culturellement. Donc Zelensky et sa bande, oui, il y a eu déjà beaucoup de scandales de corruption où on voit que les membres du gouvernement de Kiev ont reçu beaucoup d'argent, les financements, où vont tous ces fonds-là, ces financements-là, c'est clair qu'il y a plein de gens qui se sont enrichis, c'est déplorable.
Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, tu reviens quand au Québec là?
Demain.
Demain. Oh, ben profite du temps qui te reste.
Oui, il te reste un apéro, il doit être 20 heures dans ton coin. Si jamais tu croises un danseur de Noël, tu prends une coupe de vin de plus et tu regardes le mur, Jérôme. C'est mon conseil.
N'écris pas sur les réseaux sociaux selon Pascal.
Non, il a le droit de danser, il me fait du bien, moi. Merci pour cette vidéo plaisante.
OK. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Salut.
Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, à qui on aime bien jaser chaque semaine. Puis salutations à Louis Gauthier, notre chroniqueur international, qui était très assidu dans la chronique de Jérôme. Nous autres, on s'arrête quelques secondes. On s'en va en musique avec le band Green Day, la toune American Idiot sur Boulevard.
Ça fait tout.